Leave your home between 8 p.m. and 5 a.m. These efforts aim to protect our healthcare workers, seniors, and loved ones. Let's comply with the lockdown and curfew to lower the risk of contracting COVID-19, because our health is important. For more information, visit quebec.ca/confinement. A message from the gouvernement du Québec.
Si vous avez présenté une demande d'indemnisation pour des sévices subis dans un pensionnat indien, sachez que les dossiers de votre demande sont protégés. Ils seront détruits en septembre 2027, à moins que vous ne choisissiez de les conserver ou de les partager. Pour en savoir davantage, composez le numéro sans frais 1-877-635-2644.
Henri Saint-Fleur avec vous pour la prochaine heure, l'heure de haut-parleur évidemment, la voix de la diversité. Alors aujourd'hui, nous allons aborder des questions littéraires, évidemment. Ma première invitée se nomme Mathilda Topé-Fortuné, qui est diplômée en psychologie et en criminologie, et qui a travaillé de nombreuses années auprès des populations vulnérables. Elle est passionnée de théâtre, de littérature, et elle fait une entrée en littérature de l'imaginaire avec une série de romans inspirés de la mythologie nordique. Cette jeune et talentueuse auteure vous présente son deuxième roman, à paraître le 18 janvier 2021, qui s'intitule « Les écrous du temps percé, partie 1 ». Et donc, ce sera disponible dès le 18 janvier, donc en librairie. Par la suite, notre chroniqueur, celui-là qui adore nous parler de la réalité des problématiques que vivent le continent africain, il sera avec nous, il nous parlera des élections en général et visant certains pays en particulier sur le continent africain. Ensuite, notre directeur, professeur également, Wanex Lalan Zéphir et sa chronique sur le bout de la langue. Et par la suite, nous parlerons avec Aïda Melkadem, qui est étudiante en baccalauréat en droit à l'Université de Sherbrooke et qui est la directrice de la clinique juridique de Montréal-Nord. Et nous parlerons de comment réagir face au profilage racial de la police de Repentigny. Donc, en perspective, une émission fort chargée, fort intéressante à mes égards. Et bien sûr, vous savez, comme à l'accoutumée, nous faisons appel à Serge H. Moïse. Et c'est tiré de son livre à cœur ouvert, Le Moïcou du jour, tel que choisi par notre metteur en onde et directeur musical, Ronnie D, et qui refuse de prendre la parole d'ailleurs, en passant. Je le dis, puisque nous allons parler de ceux qui ne font que du blabla, n'avanceront jamais d'un petit pas. Il faudra certainement élever la voix, mais pas pour faire du « quant à moi ». Alors, notre invitée du jour est Madame Mathilda Topé-Fortuné. Bonjour.
Bonjour.
Ma première question, qui n'a rien à voir avec la littérature, avec un nom comme Fortuné, vous êtes de quelle origine?
Alors, je suis d'origine guadeloupéenne, donc de l'île de la Guadeloupe en France.
Ok. Allez-y, je vous laisse continuer.
Non, ben c'est ça, je suis d'origine antillaise, puis je suis arrivée à Montréal en 2001, donc ça fait quand même assez longtemps que je suis à Montréal, mais je connais très bien la Guadeloupe.
D'accord, ok. Non, c'était uniquement par curiosité, et au fait, ce qui m'étonne, d'accord, parce que je ne m'y attendais pas et j'y ai pensé en faisant lecture du roman « Les écrous du temps percé » où vous mélangez deux mondes.
Hein,
c'est un livre de l'imaginaire, évidemment. Alors, mais avant de parler du livre, qu'est-ce qui vous a emmené vers la littérature en tant que telle?
J'ai toujours aimé écrire, ça c'est sûr. J'ai toujours aimé lire. J'avais commencé à faire des poèmes de temps en temps. J'aimais ça écrire, donc il y a beaucoup de il y a deux professeurs de lettres qui m'ont remarqué. Un à Montréal, puis un en Guadeloupe. En faisant des poèmes, j'ai écrit un poème sur Eurydice et Orphée, qui est un petit peu sur la mythologie grecque, qui est un dialogue amoureux entre deux personnages. Et un de mes proches m'a dit, à ce moment-là, fais un roman. Alors, j'ai embarqué dans le défi, puis j'en ai programmé quatre. Donc, les écrous du temps percé, c'est le deuxième volet.
D'accord. Et avant de toujours revenir au roman, vous êtes diplômée en psychologie et en criminologie.
Oui.
Vous êtes passionnée de théâtre et de littérature, ça vous nous l'avez dit. Et puis ensuite, vous vous lancez dans l'écriture d'une série de romans. Dans ce que j'ai reçu, il est dit « Le regard des autres, la perception de soi, la quête d'identité et le maintien de l'équilibre mental sont des thématiques qui lui tiennent particulièrement à cœur. »
Absolument.
Pourquoi ça?
Parce que j'ai beaucoup travaillé dans le domaine socio-communautaire. J'adore le contact humain. Dans mes livres, les personnages évoluent vers une quête de soi, parce que c'est une découverte. On se découvre les autres, mais aussi on découvre les autres à travers soi. On se découvre à travers les défis de la vie et on devient une autre personne. Donc c'est vraiment une quête d'identité. C'est vraiment, il y a tout l'amour, l'amitié qui se dégage de tout ça. Il y a vraiment des valeurs puis des concepts que je reconnais dans le socio-communautaire auquel j'ai travaillé. Donc j'ai pu mixer les deux domaines.
Et comment, je suis vraiment curieux, et pourquoi aller, parce que le roman en général, on est dans l'imaginaire, mais vous approchez presque d'un imaginaire fantastique, mais en même temps, il y a un volet très quotidien, très réel et très palpable dans les extraits que j'ai lus.
Absolument, c'est le côté, le fantasy permet le réalisme et ça j'y tiens vraiment et je pense qu'on doit pouvoir se reconnaître dans les personnages et c'est pour ça que ça se déroule à Montréal, ça se déroule à, il y a des jeunes, donc c'est un groupe d'amis, donc c'est vraiment très dans le quotidien. On va reconnaître des choses que l'on fait d'habitude quand on vit en colocation, quand on vit seul, des habitudes aussi personnelles qui sont propres à chacun. Mais ça, c'est pour moi, c'est vraiment très important d'axer la réalité et la fiction pour montrer que c'est vivant. C'est aussi un être vivant, le roman.
D'accord. Et au fait, mon étonnement, hein, c'est que si je prends les écrous du temps percé, j'ai commencé à lire le premier chapitre avec le roi Osfrid et sa femme, ce qui se passe lors d'une fête. Et puis en deuxième lieu, je change de chapitre et je tombe sur cette réalité bien montréalaise.
Oui.
Et alors, pourquoi avoir choisi de mélanger les deux mondes?
Parce que l'écrivain est capable de pouvoir aller très loin dans son imaginaire. Mais je pense que bon, la fantasy permet d'aller explorer tout le côté dieu, mythologie, donc géant, nain, etc. Et en même temps, je pense qu'à un moment donné, dans l'évolution d'un être humain, il se pose par rapport aux autres. Donc, j'ai voulu absolument mettre les deux mondes, parce que pour moi, on peut pas mélanger. Je voulais pas rester dans quelque chose qui était trop vague, trop nain, trop géant. Il fallait que le lecteur puisse s'identifier au monde dans lequel il s'imagine.
Mmh. Et vous vous imaginez parfois dans un monde très nordique.
Oui, oui. Donc c'est la beauté de l'écriture, c'est surtout, et la beauté du fond de la fantasy, c'est surtout pouvoir expliquer des événements qui sont pour nous, qui n'ont pas encore d'explication. Donc là, la fantaisie va aller chercher l'inexplicable dans la réalité. Quand il se passe quelque chose dans notre quotidien et que on ne sait pas trop comment l'expliquer, ben la fantaisie, ce monde-là, va pouvoir l'expliquer.
Et dites-moi, que connaissez-vous, parce que ça a l'air, le passage des deux mondes se fait avec fluidité, avec souplesse. Alors, comment vous est venue l'inspiration du monde nordique?
À la base, je voulais un monde qui était déjà conçu. C'était la mythologie nordique avec l'Yggdrasil et puis les neuf mondes. C'est quelque chose qu'on retrouve depuis des années dans la mythologie nordique. C'est un monde qui existe déjà. Tout le monde connaît Thor, tout le monde connaît Odin, tout le monde connaît Loki. Donc, à partir de là, je voulais vraiment pouvoir utiliser des concepts qui étaient déjà là, mais de pouvoir les utiliser différemment. Donc là, il y a tout le côté imaginaire des autres personnages, mais la base est déjà là. Les mondes sont là, les dieux sont là, les conflits entre les dieux restent permanents.
Alors, si je prends un extrait au hasard, et où vous écrivez, selon toute vraisemblance, elle allait finir par demeurer seule dans une grande maison. Ses amis la consoleraient, mais elle savait qu'elle ne supporterait pas de rester sans elle, sa mère, cette femme si gentille, que finalement Loki, ce dieu vengeur qu'on pourrait appeler, tue. Alors, comment est-elle? Établissez-vous la trame de narration pour pouvoir, et parce qu'il y a plusieurs personnages qui interviennent, ils sont entremêlés, ils sont dans un monde, ils sont dans un autre. Alors comment arrivez-vous à établir une trame qui fait du sens?
Tout d'abord, les dieux interviennent. Ils sont accessoires, donc ils interviennent dans l'histoire des humains. Ils vont troubler leur quotidien, pouvoir les influencer aussi. Donc, des fois, leur rôle est sous-jacent à l'événement. Dans un autre contexte, c'est eux qui sont. On est chez eux. Donc, il y a vraiment un côté, on se déplace, puis on se déplace au niveau de l'angle de vue. On va chez eux, on va rencontrer les autres créatures, on va voir comment ils pensent, on va voir comment ils se caractérisent, et puis ça va nous permettre de les connaître, de savoir pourquoi ils font ça. Parce qu'ils vont intervenir dans le monde des humains.
Vous semblez aussi être très inspiré, mais là, c'est peut-être ma perception, et je peux me tromper aussi. Vous semblez vous inspirer des contes, hein? Parce que par moments, surtout dans le premier chapitre, on a l'impression de passer d'un petit conte à un autre, à un autre, à un autre, et puis ensuite, tout ça mis ensemble fait sens. Alors, est-ce que je me trompe ou bien je suis complètement, c'est juste ou bien je suis complètement à côté?
Non, c'est juste. Le premier est vraiment conte merveilleux. Le deuxième, il est plus fiction, plus dans la réalité d'un roman qu'on peut contemporain. Donc il y a plusieurs époques qu'on peut retrouver. Mais le côté conte merveilleux, oui, il était une fois dans un beau château. Oui, il y a tout le côté du conte que j'aime beaucoup, mais qui est prédominant dans le premier et qui ne l'est pas forcément dans le deuxième. Pourquoi? Parce que bon, j'ai lu beaucoup de contes. Il y a les contes de Perrault aussi qu'on nous a beaucoup enseigné quand on était jeune et qu'on a repris des tonnes et des tonnes de fois pour nos enfants actuellement. Je pense qu'il y a quelque chose, il y a des morales à la fin pour les contes. Il y a un enseignement aussi à tirer qui est là et qui ressort pour le premier.
Et bon, vous avez prévu au moins 4 tomes, si je me trompe, et vous en êtes au deuxième. Est-ce que les deux autres sont déjà écrits ou
Alors, c'est en préparation? Alors, je dirais que les romans en tant que tels, je connais les fins, je connais les trames, je connais les épisodes. Je dirais que le deuxième, il est aux trois quarts fini. Mais bon, ça demande beaucoup de correction, ça demande quand même beaucoup de réécriture et beaucoup de travail. Donc je dirais pas qu'il est terminé, mais il est en opération, il est en construction. Tous les éléments sont quand même agencés, peuvent être retravaillés ensuite. Mais tout est là déjà.
Tout est là déjà. Est-ce qu'on vous a déjà dit que vos romans pourraient servir de films ou de feuilletons télévisés?
Absolument. Pour le premier, on m'a dit que ça serait très facile à animer au niveau des animations. Aussi pour le deuxième, ça peut être très facilement décortiqué en série puis en film. Pour le moment, on n'est pas encore rendu là, mais oui, pourquoi pas, ça serait comme une alternative à avoir pour les romans.
D'accord. Et est-ce que c'est quelque chose que vous espérez?
Oui, pourquoi pas. Je pense que l'œuvre, quand l'auteur fait une œuvre, il le fait pour, il le fait pas pour lui, il le fait pour la communauté, pour tout le monde. Donc ça ne lui appartient plus. Donc oui, si l'œuvre peut exister d'une autre façon, eh bien je la laisserai vivre.
Alors, je rappelle que Mathilda Topé-Fortuné fait son entrée en littérature de l'imaginaire, c'est ça qui est surtout très intéressant, avec une série de romans inspirés de la mythologie nordique. Alors, son deuxième, Les Écrous du Temps Percé, partie 1, sera disponible en librairie dès le 18 janvier 2021. Alors, Madame Fortuné, un grand merci. Et
à vous.
J'ai bien hâte au troisième.
Ben moi aussi, ben merci beaucoup pour l'invitation et puis je vous souhaite une très bonne journée.
Merci, pareillement. À l'heure de Afro-réalité avec nul autre, Monsieur Ismaïl Mboningaba. Ismaïl, bonjour.
Bonjour Henri.
Comment vas-tu aujourd'hui, vendredi, juste avant la fin de la journée et bientôt le week-end?
Je me porte très bien.
Oui.
Bon, aujourd'hui, Henri, je vais vous parler du mirage de révolution dans le Maghreb. Tout a commencé avec la grogne généralisée de la population tunisienne et à la tête des revendications se trouvent le pain et la dignité. Mais le véritable déclencheur de la révolution fut la mort de Mohamed Bouazizi, un jeune diplômé devenu vendeur ambulant de fruits et légumes, qui s'est suicidé le 17 décembre 2010 après s'être fait confisquer pour la énième fois des marchandises aussi bien que des outils de travail. L'acte désespéré de Bouazizi, qui a préféré mourir plutôt que de vivre dans la misère, a provoqué la colère parmi les habitants de sa ville et le mouvement social de révolte s'est spontanément étendu à d'autres municipalités du pays malgré la répression du régime Ben Ali. Mais la population était déterminée de sorte que moins d'un mois plus tard, le 14 janvier 2011, le président Ben Ali et sa famille ont fui le pays et le pouvoir est tombé aux mains d'une opposition pour le moins désorganisée. La révolution tunisienne a tout de même ouvert la voie à d'autres révolutions du Maghreb, notamment en Égypte où Hosni Moubarak s'est fait déposer sous la pression de la rue et en Libye où les efforts de chasser Muammar Kadhafi ont été entrepris par les puissances occidentales et coordonnés par les Nations Unies. Une décennie plus tard, que reste-t-il de ces mouvements qui ont fait chuter les despotes du Maghreb? Eh bien, les révolutions en Tunisie, en Égypte et particulièrement en Libye, avec le chaos qui y règne toujours, ils n'ont été qu'un mirage. 10 ans plus tard, les artisans de cette chute de dictateur s'estiment bien lésés. La révolution a été confisquée. Jusqu'au plus haut niveau de l'État, on parle de la corruption qui apparaît comme endémique et organisée. Beaucoup d'hommes et de femmes appartenant aux classes défavorisées, mais aussi aux classes moyennes, ont ainsi le sentiment d'être doublement dépossédés, sur le plan socio-économique comme sur le plan politique. On se retrouve aujourd'hui dans ce même type de situation qui a été à l'origine des mouvements populaires en 2011. C'est ça la révolution. Le mot révolution est issu du latin revolutio, signifiant retour, dérivé de revolvere, signifiant rouler quelque chose en arrière, imprimer un mouvement circulaire, faire revenir quelque chose à un point de son cycle. C'est donc le retour à la case départ. La question que l'on peut se poser: à qui profite la chute des dictatures, qu'ils soient au Maghreb ou dans d'autres parties de l'Afrique? Voilà Henri. Le problème qui reste posé par les gens, c'est de se poser la question de pourquoi est-ce qu'on a chassé un dictateur comme Muammar Kadhafi pour installer le chaos qui y règne depuis 10 ans. Franchement, avant la chute de Kadhafi, la situation économique du pays était parmi les meilleures dans le monde. Et je ne parle même pas du Canada ou de la France. Vous savez que l'initiative de chasser Kadhafi a été prise par le président Sarkozy de la France. Et puis, il a demandé aux Nations Unies de lui donner l'autorisation de procéder. Et l'OTAN s'est impliqué dans cette chasse et Muammar Kadhafi était assassiné. Le pays n'était pas vraiment en mauvaise posture à ce moment-là, mais aujourd'hui, il y a la faim, l'insécurité qui, qui sont devenus comme le pain quotidien de la population.
On a l'impression que l'Occident prend un malin plaisir à maintenir et à détruire les pays. Et je pense que dans le cas de la Libye, c'est très flagrant, puisque au fait, que ce soit la Libye, que ce soit l'Irak, leur système de santé était comparable à n'importe quel système occidental.
Oui, absolument.
Et j'ai l'impression, parce que ce que j'ai cru comprendre à l'époque, c'est que lorsque Kadhafi, en particulier, a pris la décision, parce que lancer un satellite coûte très cher.
Ah oui.
Et il s'est rendu compte que en ayant son propre satellite, en un an, il rattrapait les coûts de location.
Mais effectivement, Kadhafi a lancé un satellite Africom dans l'espace, et ce qui a fait chuter les revenus des compagnies de télécommunications européennes qui avaient pris en otage toute l'Afrique.
Et il travaillait aussi pour la création d'une monnaie unique.
Une sorte de fonds monétaire africain.
Voilà. Et en plus, il voulait utiliser l'or comme outil de transaction. Hein? Et ça n'a pas plu.
Effectivement, l'or de Kadhafi a été confisqué par les pays qui ont fait chuter son régime. Mm-hmm. Effectivement, à part l'or, il y a aussi le pétrole. Le pétrole de la Libye est présentement géré par le Canada et le Royaume-Uni. Donc, ce qui répond à ma question que j'avais posée, à qui profite la chute des dictatures, que ce soit au Maghreb.
Mais était-ce vraiment une dictature? Je ne sais pas, je pose la question.
Kadhafi?
Dans certains cas, c'est flagrant, c'est simple.
Oui, oui.
On constate. Est-ce que... Parce qu'il a mis en place... C'est sûr que bon, il était nommé, il était là à vie, mais il a mis en place un système social extrêmement structurant où si quelqu'un se mariait, il pouvait recevoir des fonds pour acheter une maison. Au fait, le pétrole a servi au peuple.
Effectivement, on parle de dictateur quand on parle de Kadhafi, mais et sa dictature, c'est selon les Occidentaux, parce qu'il avait inventé un système de gouvernance qu'il appelait la Jamahiriya. Mm-hmm. C'est l'administration par le peuple eux-mêmes. Mm-hmm. C'est-à-dire que à chaque jour, il y avait une journée par semaine où il y avait une sorte d'assemblée générale des populations qui discutaient des problèmes à résoudre, et ils trouvaient des solutions eux-mêmes. Kadhafi avait quand même fait parvenir à son pays à un niveau de vie incroyablement élevé, de sorte que pour les gens qui se plaignaient de sa dictature, eh bien, c'est juste parce qu'il était resté longtemps. Il est resté au pouvoir pendant plus de 40 ans. Mm-hmm. Mais avant, je n'entendais pas de ces actes de criminalité ou bien de criminalité du régime. Mm-hmm. Sauf que les gens qui voulaient aussi accéder au pouvoir, ils n'ont trouvé que ce moyen de se débarrasser de lui, et ils ont pactisé avec le diable, c'est ce que je peux dire. Si la Libye aujourd'hui est aux enfers, ce n'est pas parce que les gens qui voulaient chasser Kadhafi voulaient que le pays aille à ce point-là.
Mais il me semble qu'à chaque fois qu'un de ces pays commence à s'en sortir. L'Occident trouve une façon de carrément les mettre en cible, les prennent pour cible. Et décide de les faire sauter littéralement. C'est-à-dire que le seul pays qui a tenu et tenu difficilement, c'est Cuba.
Oui.
Cuba a tenu parce que, bon, le niveau d'éducation des Cubains est extrêmement élevé. Donc, même s'il y a certains qui, partie prenante pour les États-Unis, allaient en Floride, mais les Cubains, et même s'il y avait des insatisfactions, il faut le dire.
Mais il y a des insatisfactions, même au Canada. Que
ben voilà.
Donc, la Libye, tout comme d'autres pays du Maghreb, ils sont des pays quand même beaucoup mieux organisés par rapport à ces pays de l'Afrique subsaharienne, parce que le niveau de compréhension, le niveau de conscience de leur population est beaucoup plus élevé. Et puis, ils ont de l'éducation quand même. Tandis que au pays de l'Afrique subsaharienne, l'éducation est encore très, très basse. C'est pour ça que les choses changent sans que les gens sachent de quoi il s'agit même. Donc, les révolutions dans nos pays, on en a encore besoin.
Mais toutefois, je dois ajouter qu'ils sont peut-être plus instruits, mais ils sont beaucoup au chômage parce qu'il n'y a pas d'emploi. Et très souvent, ils servent ce que j'appelle la fuite des cerveaux. Ils nourrissent l'Occident en travailleurs.
Effectivement, la fuite des cerveaux, c'est l'une des stratégies de l'Occident d'affaiblir ces pays et puis de profiter de leurs ressources intellectuelles sans rien payer du tout.
C'est bon? Autre chose?
Ben, qu'est-ce qu'on peut ajouter? La révolution, c'est que il faut dire que la révolution doit être redéfinie au niveau de l'Afrique, parce que c'est le besoin qui se fait toujours sentir, spécialement dans les pays les moins développés de l'Afrique subsaharienne.
Donc, on peut donc conclure que le printemps arabe est né, mais est mort-né.
Ah, absolument. C'est ce que je dis. On se rend compte qu'on est revenu à la case de départ. Donc, les gens se retrouvent avec les mêmes revendications qu'il y avait il y a une décennie, il y a 10 ans. Donc, les revendications pour le pain, pour la dignité et pour l'égalité, la démocratie, tout reste le chaos dans la région.
Merci, Ismaël.
Projet Vivement Français, financé par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Radio Centre-Ville présente Sur le bout de la langue avec le professeur Juanex Lalanzéfil. Des expressions fautives, des phrases mal formulées, de mauvais accords ou des accords non faits. En un mot, ce qu'il ne faut pas dire et ce qu'il faut dire. Du lundi au vendredi, au cours de l'émission Haut-Parleur, animée par Henri Saint-Fleur. Un rendez-vous instructif.
La Direction générale de la radio anticipe une amélioration des émissions. La Direction générale de la radio anticipe une amélioration des émissions de la radio. Il faut dire, la Direction générale s'attend à une amélioration ou encore prévoit une amélioration. Merci et à la semaine prochaine.
Prochaine invitée, je devrais dire prochaine invitée, Madame Aïda Belmkadem, qui est étudiante au baccalauréat en droit à l'Université de Sherbrooke. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'elle est directrice de la clinique juridique de Montréal-Nord et la clinique juridique et l'Acamédia organisent un atelier fort intéressant sur le profilage racial pour les communautés noires de Repentigny le samedi 16 janvier à 14h, en mode virtuel évidemment. Alors pour nous en parler donc, Madame Aïda Belkadem, bonjour.
Bonjour, bonjour, comment ça va?
Très bien, et vous?
Ça va très bien, merci de m'accueillir, ça me fait super plaisir d'être présente.
Ben écoutez, aborder un tel sujet est tellement passionnant et tellement intéressant que je ne pouvais faire autrement que de vous inviter à en parler.
Écoutez, je suis très heureuse qu'on voit les choses de la même façon. Effectivement, c'est un sujet passionnant qui mérite toute la couverture médiatique que possible. Je pense que c'est important de promouvoir justement des initiatives communautaires, des collaborations, la formation d'un tissu communautaire, puis clairement une solidarité en ce qui concerne toutes les luttes contre le profilage racial.
Pourquoi est-il si important de parler de profilage racial?
Je pense que c'est un sujet qui demeure fondamental. Je veux dire, le traitement est clairement différentiel. Différentes situations se multiplient à Montréal depuis longtemps. Il y a différents rapports. Les prises de parole se multiplient. Je pense qu'il nous faut s'assurer que les jeunes, que les personnes des communautés noires, des communautés racisées, personnes de couleur, soient à l'affût, informées, se sentent aptes. Et les connaissances suffisantes pour pouvoir justement comprendre leurs altercations avec la police, comprendre leurs altercations avec le corps policier dans différentes sphères. C'est important de comprendre quels sont vos droits, quelles sont vos obligations. Je pense que ce genre d'atelier, justement, promouvoit une information vulgarisée. Mm-hmm. Des fois, le monde juridique, l'information juridique, ça peut sembler tellement hermétique. L'objectif, c'est justement d'en parler puis de l'expliquer à tout le monde, parce que je pense que c'est fondamental, ça devrait faire partie de nos outils quotidiens que de savoir comment notre société fonctionne et de savoir comment on peut s'armer, quels sont nos recours, comment aller porter plainte si on semble vouloir le faire, si on est dans le droit de le faire. Donc, c'est dans cet objectif, je pense que c'est fondamental d'en parler.
OK. J'ai trouvé intéressant que le titre de l'atelier s'intitule « Comment réagir face au profilage racial de la police de Repentigny ». Là, vous ciblez un secteur bien spécifique et un lieu géographique. Pourquoi ça?
Oui, effectivement. Écoutez, en toute honnêteté, ce qu'on a remarqué, c'est que les pratiques policières de région en région varient. Et mm-hmm. un des sujets qui, moi-même, j'aurai le plaisir d'apprendre dans le cadre de l'atelier de demain, considérant que l'atelier a été formé par des bénévoles de l'équipe de profilage racial de la clinique en collaboration avec des partenaires à la CAIMédia. Mm-hmm. Donc, il y a des spécificités qui s'applique à Repentigny. Et pour ces spécificités, des outils qui sont utilisés par le corps policier de Repentigny, il y a un traitement particulier. Donc, les bénévoles qui ont créé l'atelier se sont penchés sur ces singularités pour s'assurer que les personnes à Repentigny se sentent interpellées et prises en considération en ce qui a trait à leur recours puis à leur réalité, en fait. L'idée, c'est vraiment d'y aller avec chaque profil. Donc, c'est important d'y aller avec une approche qui est plus subjective, puis Repentigny à ses propres pratiques. Nous aurons le plaisir d'en apprendre davantage demain, je pense.
Mm-hmm. Et Repentigny revient souvent dans les médias parce qu'il y a souvent, hein, très très souvent, et j'insiste sur le mot souvent, il y a souvent des problèmes de profilage à Repentigny.
Oui, ben c'est ce que Pierre-Richard Thomas de la CAIMédia m'expliquait. C'est une des raisons d'ailleurs pourquoi on est entré en collaboration. Il y a toujours une réalité à Repentigny qui est particulière, qui est violente de racisme systémique, dont le profilage racial est la principale manifestation. Et Je pense que c'est pour ça, en fait, qu'il voulait pouvoir avoir un atelier avec nous. Quand on en a parlé, on s'est dit que ce serait un bel outil pour justement rendre les citoyens et citoyennes, surtout les jeunes adolescents, un peu plus formés. Je pense qu'il y a une situation à l'été dernier concernant une situation de profilage racial. Un groupe de jeunes s'était fait justement remarquer un traitement différentiel en ce qui concerne un match de basket, je pense, pendant la période covidienne. La période du COVID, la période de pandémie a été particulière, puis le traitement s'est fait ressentir. Je pense qu'effectivement, Repentini repart de plus belle. Donc, l'atelier se voulait justement une belle façon de participer à la lutte, puis de les informer tout simplement. Donc, je suis tout à fait d'accord. Repentini revient souvent.
Et une fois que vous êtes mis ensemble à tout le monde et vous avez décidé de réaliser un atelier, d'accord, quels étaient les éléments les plus importants, les plus cruciaux qu'il fallait à tout prix aborder pour que l'atelier fasse du sens pour ceux qui vont y assister?
Ben, l'idée, je pense, c'est simplement de comprendre les bases. Donc, comment ça se passe une discussion avec un policier? Quelles sont les raisons pour lesquelles le policier peut venir demander à ce que quelqu'un s'identifie, dans quelles circonstances? On appelle souvent des constats, ce qu'on appelle les constats, là, les tickets, ces constats d'infraction, pourquoi ils sont donnés, dans quelles circonstances, comment on les remet en question, ces constats-là. Donc, l'information la plus importante reste probablement les recours. Donc, comment réagir lorsqu'on considère avoir obtenu un constat qui n'était pas justifié parce qu'il découlait clairement d'un biais ou de d'idées préconçues sur la personne en fonction de la couleur de sa peau. Donc, l'idée, c'est de pouvoir principalement se concentrer sur les plaintes en déontologie policière, comment aller porter plainte, comment faire un recours, comprendre pourquoi c'est important de le faire, puis donner une voix à ces jeunes qui souvent ne se manifestent même pas. Ils laissent courir les choses et ils ne réagissent pas. Puis ignorent le fonctionnement très simple par moment de comment on réagit à ce genre de choses. Donc, l'idée, c'est de leur donner la base, justement. Quels sont vos droits? Quelles sont vos obligations par rapport à un constat d'infraction pour telle situation? Souvent des infractions réglementaires. Et par la suite, comment on réagit à ce constat? Donc, essentiellement, c'est pas mal ça.
Est-ce que vous avez pensé faire la même chose avec la police?
Qu'est-ce que vous voulez dire? Si on leur donne une formation à eux aussi?
Pourquoi pas? J'ai l'impression qu'ils en ont plus besoin que ces jeunes.
Écoutez, je veux dire, je suis pas contre du tout. En fait, on a commencé... en fait, d'un point de vue totalement personnel, je pensais que ce serait bénéfique d'avoir d'abord des ateliers qui sensibilisent puis qui commence une discussion avec les communautés visées, reprendre parole, se sentir valide dans sa reprise de parole, c'est important. Mais effectivement, et ça risque d'arriver prochainement, notre objectif, c'est de créer un pont, puis c'est de faire sensibilisation de l'autre côté aussi, de s'assurer que c'est entendu, que c'est compris, qu'il y a une mise en une réforme qui se veut réceptive. Donc, effectivement, je pense que dans d'autres ateliers, on pourrait viser la police, les agents de police. Certains seront probablement réceptifs, d'autres peut-être un peu moins, mais l'idée, c'est justement d'entamer le dialogue. Je pense que c'est absolument pertinent, puis c'est prévu dans les plans.
D'accord. Est-ce que la police a réagi par rapport à cet atelier?
Pour le moment, on n'a pas encore eu... de réponse. Donc, je vous avoue que je suis encore sur le qui-vive. J'ai bien hâte de voir comment demain ça se passe, qui sera au courant, comment la couverture médiatique va se faire, puis si on aura possibilité d'avoir un retour en termes de réaction, ce serait bien. J'aimerais bien savoir ce qu'en pense la police de Repentigny, s'ils ont des commentaires, une volonté de participer ou d'entamer le dialogue, ça pourrait être très intéressant.
D'accord. Mais dites-moi, bon, il y a l'atelier qui aura lieu, je vais reprendre, et puis là, je vous permet d'intervenir. C'est demain, samedi 16 janvier 2021, de 14h à 15h. Exact. L'inscription est obligatoire. Alors, comment on fait pour s'inscrire?
Oui, exactement. Mais c'est un peu la logistique de toute la chose. Mm-hmm. Donc, la CAI Média, la Clinique juridique de Montréal-Nord, on a tous les deux des pages Facebook. Mm-hmm. Donc, je vous encourage sincèrement à aller nous suivre d'abord sur les réseaux. Et la CAI, LAKAY Média, MEDIAS, pas de S, DIA. Mm-hmm. Et la Clinique juridique de Montréal-Nord, on aura affiché nos liens, en fait. Donc, l'objectif, c'est d'abord de s'inscrire. On aime bien recenser le nombre de participants, s'assurer qu'on a un groupe intéressant. C'est bien pour nous, c'est bien pour vous. Puis par la suite, vous allez automatiquement recevoir un lien pour la rencontre Zoom de demain à 14h. Grosso modo, demain, il y aura une courte introduction de la part de Pierre Richard Thomas de la CAI Média, mm-hmm. expliquer un peu qui on est, pourquoi on a décidé de faire un atelier. Souhaiter la bienvenue à tous et à toutes qui seront présents. Et ensuite, les bénévoles de la clinique vont entamer leur présentation. Il y aura probablement quelques informations via une présentation rédigée, puis des interventions en personne. Mm-hmm. De la même façon, il y aura aussi Maître Alain Babineau qui sera présent lors de la rencontre. Et la fondatrice de la clinique juridique de Montréal-Nord, Maître Marie-Livia Baugé, devrait aussi être présente, faire une apparition, puis discuter un peu autant de l'atelier que d'une application mobile qui s'appelle Bon Cop, Bad Cop, qui est un outil, en fait, pour lutter contre les interventions ou les surinterventions de la police qui sont souvent injustes. Donc, ça se veut un outil super utile à télécharger sur notre téléphone pour s'assurer d'avoir, de récolter nos preuves, de filmer les policiers en action, de s'assurer qu'on puisse prendre un rendez-vous avec la clinique. Donc, il y a toutes sortes de choses. Il y a de l'information juridique sur l'application. Elle a lancé la clinique, donc ça vaut la peine d'être présent pour l'entendre.
D'accord. Et le nom de l'application, encore une fois?
Ça s'appelle Bon Cop, Bad Cop. Donc, okay. Ça se veut un jeu de mots. Bon, mm-hmm. B-O-N.
Inspiré du film, j'imagine.
Donc, policier en anglais. Mm-hmm. Bad, donc mauvais en anglais. Et cop encore. Donc, bon cop, bad cop.
Bad cop. Et bien sûr, avec cette application qui est gratuite, j'imagine?
Oui, elle est complètement gratuite à télécharger autant sur les produits Apple que les produits Android. Je pense que c'est complètement disponible présentement. Donc, ça sera discuté davantage demain. Donc, n'hésitez pas. Puis, surtout, n'hésitez pas à nous poser des questions via les réseaux ou via courriel ou peu importe. On a un site Internet à la clinique. Donc, simplement nous écrire. Ça nous fera extrêmement plaisir de pouvoir diriger ou ajouter toute information manquante.
D'accord. Et dites-moi, et cette question-là, je l'adresse à vous directement.
D'accord, je vous écoute.
Et vous dites que l'implication bénévole a toujours fait partie intégrante de mes ambitions.
Ah, oh, OK.
Et en ce sens, je demeure convaincu que le savoir se doit d'être partagé, transmis et outil de changement social.
Effectivement. Je me sens très privilégiée d'être éduquée, de m'être rendue. J'ai fait différentes formations à l'université. Je suis personnellement je suis la seule universitaire de ma famille. Donc, j'ai toujours eu un rapport à mes accomplissements académiques. Je considère que c'est un privilège de m'être rendue où je suis. Et par le fait même, je pense que de ce privilège découle un certain devoir de transmission. Mon objectif est de devenir avocate. Je pense que les compétences, les qualifications que je suis en train d'acquérir et d'accumuler se doivent d'être transmises, se doivent d'être partagées. Les gens devraient tous et toutes savoir comment ça fonctionne exactement, les infractions, comment notre appareil judiciaire fonctionne, comment porter plainte. On devrait être capable d'avoir une certaine une capacité de réagir, puis souvent ça intimide, donc je me perçois comme je pense que c'est important et fondamental que je puisse redonner cette information. L'image de l'avocat qui facture des sommes grossières, c'est pas pour moi. Donc l'objectif, c'est vraiment de travailler, de construire une meilleure société, de redonner et de partager justement. Donc oui, je suis tout à fait je reste fidèle à mes propos.
Et dites-moi, quel est le meilleur coût ou les meilleurs coûts de la clinique juridique de Montréal-Nord depuis sa création à l'été 2020?
Les meilleurs coûts?
Oui, les meilleurs dossiers.
Je vous avoue que je suis particulièrement particulièrement fière parce que on est très présents. Les gens nous posent des questions, les gens sont venus nous voir. On a eu une des meilleures initiatives qu'on a lancées, c'est probablement la clinique sans rendez-vous le samedi. Donc on avait dès lors l'ouverture de nos bureaux au 3830 rue Henri Bourassa Est. Mm-hmm. Donc on est dans Montréal Nord un peu avant Saint-Michel. Et dès l'ouverture de nos bureaux, on a commencé une clinique sans rendez-vous. Les gens pouvaient venir nous voir, nous poser des questions. On a une équipe de bénévoles incroyable. Puis on a été capable de fournir près d'une cinquantaine de consultations gratuites avec suivi, recherché. On a pu aider des gens à trouver des juristes, à trouver des avocats pour les accompagner dans leur situation, dans leur litige. Donc, offrir une représentation, pouvoir avoir aidé des gens avec des conseils judicieux sur place sans inquiétude en termes de coûts. Je pense que ça a été le meilleur coup de la clinique. Clairement, on était une ressource en besoin. On l'a ressenti dès notre installation, puis on est très, très fiers de pouvoir contribuer. Puis, idéalement, on continue en 2021, c'est clair. Donc, ça serait un des meilleurs coups, je pense, la clinique sans rendez-vous, qui continue d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas si vous avez quoi que ce soit. Et autrement, je pense qu'on a différents volets. Donc, ce qui est intéressant, je pense qu'il a commencé avant même notre ouverture physique, mm-hmm. c'est la recherche, la vulgarisation juridique en ligne. En plus, on traduit en cinq langues, là, incluant le français et l'anglais. Donc, on écrit en arabe, on écrit en espagnol, on écrit en créole. Être capable de fournir de l'information concise, précise sur des notions juridiques sur nos plateformes de réseau dans différentes langues, je pense que c'est très impressionnant. Moi, ça me rend très fière. Je pense que notre équipe est dévouée et très talentueuse. Donc, clairement, ce serait dans les gros coups de la clinique. Puis, ce n'est que le début.
J'ai senti chez vous une volonté de vraiment démystifier l'aspect juridique des choses et surtout démontrer aux gens que en sachant leurs droits, ils peuvent plus facilement confronter, je parle pas de violence nécessairement, mais je parle de confronter dans le sens que d'interagir avec la police pour amenuiser l'impact des interventions des policiers.
Oui, certainement. Je pense que le savoir affranchi, je pense que les gens qui peuvent contrôler ce qui se passe. Je veux dire, dès lors que tu sais ce qui t'arrive, dans une intervention qui découle de profilage racial, clairement, il y a une injustice qui est ressentie par la personne qui est visée dès le départ. Mm-hmm. Elle le sait. Quelqu'un qui est profilé, une personne noire, une personne de couleur qui est profilée, habituellement, sans contredit, on est pas mal certain de ce qui se passe. Donc, il y a un traitement différentiel qui s'installe et la dynamique... Et tellement, il y a de l'intimidation, il y a du stress, il y a de l'angoisse, il y a toutes sortes de ressentis. Donc, pour au moins se défaire de tout ça qui est déjà injuste, toute la prémisse est selon moi inacceptable. Donc, au moins, si on peut donner des informations, savoir que tu n'as pas à faire plus que t'identifier, tu n'as pas à ci, tu n'as pas à ça, savoir comment faire pour la suite, savoir quoi faire pendant. Donc, je dois filmer, je dois m'assurer d'avoir son matricule, d'identifier convenablement le policier. Donc, c'est plein de petites choses que tu peux ajouter à l'événement traumatique que tu vis pour mm-hmm. au moins te sentir minimalement en contrôle puis savoir comment faire après. Donc, effectivement, je pense que je réitère mon point, là, le savoir affranchi clairement et mon objectif, je pense... Ça fait partie de la mission de la clinique. C'est clairement d'être présent et d'accompagner les gens et de les outiller. C'est la première étape pour faire du changement.
D'accord. Alors, rappelez rapidement aux gens, c'est l'activité de demain.
L'activité de demain, ben écoutez, c'est un atelier concernant le profilage racial, donc les droits, les obligations, comment faire pour réagir au profilage racial par rapport à la police de Repentigny. Donc, je vous invite en grand nombre, autant pour apprendre vous-même des notions que vous aviez peut-être pas, et pour connaître un peu plus la situation de Repentigny. Effectivement, il y a des choses qui se passent là-bas qui méritent couverture médiatique, qui méritent militantisme. Donc, je vous invite fortement à participer à l'atelier, à poser des questions, ne gênez pas, il y aura des belles interventions, des explications claires. L'objectif, c'est justement de se sentir dans une discussion émission. Malheureusement, c'est la pandémie, donc on fait ça à distance, mais vivement la fin pour pouvoir se réunir, partager non seulement des discussions, des débats, mais surtout un moment en fait de solidarité. Donc, c'est essentiellement ça l'atelier. L'atelier se veut éducatif, interactif, intéressant. Donc, je vous invite fortement demain à 14h.
Merci beaucoup et au plaisir.
Ça fait plaisir.
Alors, c'est le week-end, profitons-en et je vous invite à aller voir cet atelier sur le profilage racial et comment réagir par rapport en particulier à la police de Repentigny. Je trouve ça fort intéressant. Donc, un grand merci à toute l'équipe. Comme c'est vendredi, vous les connaissez tous déjà, mais plus particulièrement celui qui est le plus silencieux de la gang. Non, il y en a deux. Il y a Roxane Taino, le dent recherchiste, et le metteur en onde et directeur musical, monsieur Ronidi. Ici, Henri Saint-Fleur, à la réalisation et à l'animation. Eh ben, Haut-parleur est une production de Radio Centre-Ville, 102.3 FM.
Centre-ville, 102.3 FM, un monde différent.
Ouf! Vendredi, la fin de semaine. Repos, marché, bouffe, magasinage en perspective. Alors, ne l'oubliez pas, Transcom est la référence pour vos transferts d'argent en Haïti avec Unitransfer et partout dans le monde. Transcom avec 3 adresses à Montréal. Le 90-81 Boulevard P9, 679 Jarry Est, 32-95 Henri Bourassa Est, Point Saint-Michel. Recherchez le logo Transcom, la seule agence avec son propre service à la clientèle pour ses 3 succursales. Transcom pour vos transferts d'argent, un service après-vente garanti. Profitez-en pour recharger les téléphones cellulaires de vos parents et amis en Haïti avec Digicel et Natcom et pour vos appels internationaux avec Boss Révolution. Info Transcom 514-852-8648 1866-852-8648.
Ce message s'adresse à l'ensemble de la nation québécoise. Nous devons agir avec force pour freiner la pandémie. Seuls les services essentiels demeurent offerts. Les rassemblements sont interdits. Il est défendu de quitter son domicile entre 20h et 5h le matin. Respectons le confinement et le couvre-feu pour éviter d'être infectés par le virus de la COVID-19. Pour protéger les travailleurs de la santé, nos proches et nos aînés. Car l'important, c'est la santé. Pour plus d'informations, visitez québec.ca/confinement. Un message du gouvernement du Québec.
Les amis camarades, les aggraves. Qu'on dit ou dit, prends précaution, c'est remède corps. Marché Méli-Mélo Caraïbes, avec restaurant Néo-Resto Méli-Mélo, vous et Dine, vous préparez-vous pour vous ban bon service. Nous traversons une période difficile. Voilà pourquoi le marché Méli-Mélo. Vous et Dine, on s'accompagne pour commander bon manger, relez carrément. Dans 514-277-6409, ou relez pour commander manger, ou pas besoin de rétendre. Ou passez l'encontre, ou payez, ou boy, ou ticket, ou rivez-vous, ou prenez manger, ou la prudence étant de mise, ou allez. Sinon, pas oublier que le marché Méli-Mélo toujours bon produit. Tandis qu'au Néo-Resto Méli-Mélo, situé au 24-66 rue Bélanger Est,